Journal de bord du Solario, jour 33. La ruse. Nous venons de relâcher le dernier prémat. Un garçon, de la même taille chétive que les autres, mais qui paraît plus malin. Une flamme d'intelligence pétille dans ses yeux, un peu comme chez un petit chiot débrouillard. Je suis désolé de la comparaison, je sais que je ne devrais pas écrire ça. Les prémats sont des êtres humains, comme nous. D'ailleurs, Alix a eu les larmes aux yeux quand on l'a libéré. Elle l'a appelé Sam. Peut-être d'ailleurs est-ce vraiment son nom, puisque c'est le mot, ou plutôt le cri qu'il pousse le plus souvent. Sam, 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 en faisant claquer sa langue entre ses dents à la manière d'un caniche qui aboie. « Ne t'en fais pas », ai-je murmuré à Alix en la prenant dans mes bras. « Il reviendra. » Je ne cherchais pas seulement à la consoler, j'étais sûr de moi. Nous étions parvenus à convaincre Bill d'adopter une nouvelle stratégie. Après la force, il nous fallait essayer la ruse. C'est Agnel qui a eu l'idée. Selon lui, les oiseaux qui chapardent des miettes de pain le font rarement pour eux. Le plus souvent, ils les prennent dans leur bec pour les rapporter dans leur nid et nourrir leur famille. Alors, pourquoi ne pas laisser traîner des miettes de pain, des biscuits, du fromage, des fruits, bref, tout un festin, à porter des petites mains des prémats, à peine surveillés, pour qu'ils viennent les dérober le soir ou le matin quand ils nous croient endormis.
« Ça ne marchera pas !» a protesté Bill. « On va nourrir ces débiles pour rien. Ça fait 7 semaines qu'on ne mange que du poisson et des algues séchées. Et eux auraient droit aux œufs, aux gâteaux aux amandes et aux confitures. »
Seul contre tous, il a pourtant fini par accepter. Sam a volé un fromage de chèvre un premier matin. Puis il est revenu en voler 3 le lendemain. Le jour d'après, nous avons posté des espions un peu partout, avec pour consigne de ne pas l'approcher, mais de ne surtout pas le perdre de vue. Nous avions laissé pour lui une boule de pain aux noix, suffisamment grosse pour qu'il ne puisse pas courir trop vite après l'avoir chapardé. Le soleil n'était pas encore couché, mais nous, si, quand Sam est venu la dérober sous notre nez. Le prémat est parti en rampant avec son trésor, puis s'est faufilé avec précaution dans la forêt, sans remarquer qu'on le suivait. Nous étions persuadés qu'il continuerait de s'enfoncer dans les bois, vers un des villages voisins abandonnés dont nous avions fouillé tous les recoins, mais il a changé d'un coup de cap et est revenu en direction de la falaise. Il est resté un petit moment à découvert, au-dessus de l'estuaire, à renifler autour de lui. Nous avons même un instant cru qu'il allait se jeter dans le vide. Puis il a disparu. Nous nous sommes précipités derrière lui. À l'endroit précis où Sam se tenait quelques instants auparavant, nous sommes tombés sur un puits, dissimulés avec habileté dans des fourrés. Immédiatement, nous avons compris. Ce puits descendait dans la falaise. Il s'agissait sûrement d'un ancien tunnel, creusé par des pêcheurs pour se rendre directement du village à la mer. Avec précaution, nous nous sommes engagés dans le conduit sombre, veillant à ne surtout pas allumer de lampe. Il nous fallut presque une heure avant d'apercevoir enfin de la lumière. D'abord, un tout petit cercle, qui s'agrandissait au fur et à mesure que nous progressions. Le soleil du soir nous a éblouis dès que nous avons posé un pied dehors. La boule de feu rouge semblait suspendue au-dessus des falaises noires. Tous, dans un même réflexe, nous avons placé nos mains en visière, dans une sorte de garde-à-vous militaire. Aucun de nous n'osait prononcer le moindre mot. C'était marée haute. Les vagues, 1 mètre en dessous de nous, éclaboussaient nos pieds. Nous avions atteint une sorte de crique secrète, impossible à repérer du haut de la falaise, et inaccessible par l'estuaire, en tout cas, pas avec un bateau aussi gros que le Solario. Au milieu de l'eau s'élevait une petite île, et sur l'île s'élevait une étrange maison, entourée de pins maritimes. La bâtisse, taillée dans les mêmes pierres de craie et de silex que les falaises, semblait avoir été construite sur cet îlot pour être la plus invisible possible. Au pied de la porte, une petite plage de sable, dorée par le soleil de fin de journée, descendait directement dans la mer. Au bord de l'eau, un hamac était accroché entre 2 palmiers. Et dans le hamac, doucement bercé par le vent, Yak dormait. La rencontre. Nous sommes restés un long moment muets, tétanisés. C'était donc vrai. Un adulte, au moins un, avait survécu. Nous étions tous conscients de vivre un moment historique. Le hamac, toujours accroché entre deux palmiers, continuait de se balancer. Yak en est descendu et se tenait devant nous, ses deux pieds nus plantés dans le sable rougi par les derniers rayons de soleil. À l'exception de sa barbe, plus longue que sur les images vidéo, Yak ne paraissait guère impressionnant. Bien qu'adulte, il n'était pas plus grand que la plupart des ados. Il était par contre plus épais, avec un ventre lourd qui débordait de son t-shirt. Il regardait avec étonnement notre barque s'échouer sur le sable de son île. L'embarcation était amarrée en bas du tunnel. Yak et les Préma l'utilisaient sûrement pour leurs allers-retours de la falaise à sa maison. La barque ne pouvait contenir que 5 passagers. Alix, Angel, Bill, Novak et moi fûmes désignés pour la première traversée. En m'approchant, la première chose que je remarquai chez Yak fut la couleur de ses yeux. Un bleu très clair, comme s'ils avaient été découpés dans le ciel. Puis, juste après, j'entendis sa voix. Elle se fracassa sur nous comme les vagues sur les rochers. « Foutez le camp !» Aucun d'entre nous ne réagit tellement nous fûmes surpris. Les yeux bleu azur de Yak étaient traversés d'éclairs. Il répéta, au cas où nous n'aurions pas compris, « Foutez le camp, je vous dis !» La marée descendante tentait elle aussi de repousser la barque vers le large, mais nous avions déjà sauté sur le sable. Comme mes compagnons, je pris le temps de détailler l'homme devant moi. Je m'étais préparé à vivre cet instant que nous attendions depuis que nous étions nés, rencontrer un adulte. Il avait forcément des réponses aux questions que nous nous posions depuis toujours. Il représentait autant notre passé que notre futur. Il incarnait à la fois l'espoir et l'autorité. Il était l'exception, l'unique, le survivant. Et pourtant, je ne parvenais qu'à me concentrer sur les auréoles sales sur son t-shirt, comme s'il n'en avait pas changé depuis des années, sur sa silhouette qui vacillait, comme s'il peinait à conserver son équilibre, sur ses mains qui tremblaient, et surtout, sur l'épouvantable odeur d'alcool qui empestait l'air dès qu'il ouvrait la bouche. « Tirez-vous !» continua d'aboyer Yak. « C'est mon dernier avertissement ! Tirez-vous, tant qu'il est encore temps pour vous !» Je remarquai qu'il tenait une bouteille. Il l'avait dissimulée dans son dos jusqu'à présent, mais il la leva d'un coup, l'observa, constata qu'elle était presque vide et la jeta dans notre direction. J'eus le réflexe de pousser Alix, le flacon lui rasa la tête avant de s'échouer dans l'eau. Une bouteille à la mer, pure vodka, d'après ce que j'avais eu le temps de lire. L'effort parut avoir été trop violent pour Yak. Entraîné par son geste ou le poids de son ventre, il tomba en avant, genoux enfoncés dans le sable, dans une grotesque position de prière face à 5 petits dieux descendus de la barque. Immédiatement, pour dissiper tout malentendu, Yak cracha vers nous. Un crachat sans force, contre le vent, et les glaires lui revinrent en pleine face. Aucun de nous n'avait encore eu le courage de parler. Je regardais Alix, qui me regardait. Nous savions tous les deux que nous ne devions pas laisser cet idiot de Bill s'exprimer en premier. Je m'apprêtais à ouvrir la bouche, à improviser, mais la scène qui suivit me rendit muet. 7 Préma venaient de surgir de la maison de Yak. Un premier portait une nouvelle bouteille, pure vodka, pleine, celle-ci. Un deuxième portait un verre, un troisième une serviette, un quatrième un t-shirt propre, un cinquième galopait derrière les 4 premiers, je reconnus Sam, il tenait toujours la boule de pain aux noix entre ses bras. Les 2 derniers Préma portaient chacun une espadrille. Dès qu'ils s'approchèrent, Yak attrapa la bouteille et repoussa les autres en grognant. « Dégagez, bande de sangsues !» Il dévissa le bouchon du flacon entre ses dents, le laissa tomber et descendit une longue rasade d'alcool ponctuée par un rose sonore. Yak était tellement saoul qu'il ne parvenait plus à tenir la bouteille. Elle s'échoua à son tour sur la plage. Il tenta maladroitement de la récupérer, mais ne fit que davantage la vider. Il abandonna, dépité, et releva enfin ses yeux bleus pour nous fixer les uns après les autres. « Alors ?
finit-il par nous lancer. « C'est vous, les voleurs de montres ?» Je cherchais désespérément une réplique dans ma tête, espérant qu'Alix, Agnel ou même Bill soient plus inspirés que moi.
« C'est vous ?» continua Yak. « Les tueurs de chiens ? Qu'est-ce que vous venez foutre ici ? Le monde n'est pas assez grand ? On n'a pas assez fait le ménage ? On a liquidé plus de 99% de l'humanité, c'est pas encore assez ? Faut que vous veniez m'emmerder ?»
Bill s'avança crânement. J'eus soudain très peur de l'ânerie qu'il allait prononcer, mais Yak s'était retourné.
« Soif !»
hurla-t'il.
« Babim ! Babim !»
Le premier prémat, courant ventre à terre, revenait déjà avec une troisième vodka. Yak regarda la bouteille pleine avec un sourire d'avidité, rota une dernière fois, puis soudain, définitivement trop ivre, s'écroula, la tête dans le sable. Nous étions 12 à l'observer, 5 ados et 7 prémats. Mais, à la différence de nous, les prémats semblaient habitués. Ils surveillèrent avec attention le corps allongé, pour être certain que Yak était bien endormi. Puis, quand ils l'entendirent ronfler, bouche ouverte au point d'en avaler du sable et de s'en étouffer, ils se penchèrent vers lui, et, à 14 petites mains, le soulevèrent et l'emmenèrent avec autant de précaution que s'il soulevait un piano à l'intérieur de la maison. Nous étions désormais seuls sur la plage, entre les deux palmiers, devant un hamac vide et deux cadavres de bouteilles, à méditer cet instant historique et solennel, la première rencontre entre les enfants du Nouveau Monde et le dernier adulte vivant.